Bonsoir Gilles Magnon, vous
Bonsoir.
êtes là pour nous parler de la correspondance inédite qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde de Manchette, Jean-Patrick Manchette, qui est un des maîtres du polar français des années 70 à 80 pour la grande décennie qui a vu ses 10 romans cultes publiés. En quoi cette correspondance est-elle importante dans l'œuvre de Jean-Patrick Manchette aujourd'hui, 25 ans après sa disparition ?
Alors, il y a plusieurs manières de répondre. Une première manière, ça serait de dire que la correspondance, elle permet d'éclairer une partie, enfin, un moment qui est peu connu d'une certaine manière, puisque c'est le moment justement où, enfin, à peu près, Manchette cesse de publier des romans après 1982, et la correspondance, elle commence en 1977. Voilà. Et Manchette mourra en 95. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une décennie, même presque 15 ans, qui sont assez mystérieuses éventuellement, qui est assez mystérieuse pour le grand public. Et donc cette correspondance, elle permet justement de voir que Manchette, à cette époque-là, ne cessait pas du tout d'écrire, ne cessait pas du tout de réfléchir, de travailler, etc. Enfin, qu'il n'y avait pas du tout, comme on a pu le croire à une certaine époque, une sorte de grand silence de Manchette. Voilà, que ce grand silence est une sorte de mythe. Donc, première chose, c'est de d'avoir un éclairage sur cette et un éclairage très très profond, parce qu'il y a quand même plus de 200 lettres ici qui sont réunies. Deuxième chose, c'est de donner encore une fois une sorte de nouvelle facette de l'œuvre. C'est-à-dire que c'était une œuvre qui était déjà assez importante du vivant de Manchette et qui finalement ne cesse de s'enrichir depuis sa mort, puisqu'il y a une somme d'inédits qui sont parus, qui montrent de nouvelles facettes du talent de Manchette, de son écriture, de sa pensée, etc. Voilà, donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est une nouvelle pierre qui vient s'ajouter à l'édifice déjà existant.
Parmi ces lettres, ces 200 lettres de cette vaste correspondance publiée là tout récemment, il y a des lettres, bien entendu, qui étaient déjà un petit peu révélées dans certains de façon éparse. Là, elles sont toutes rassemblées et ça nous donne une nouvelle aussi. Ça nous approfondit sur la personnalité de Manchette, de l'écrivain, mais aussi de l'homme sensible qu'il était, émouvant même, et bien loin des clichés aussi qu'on avait de cet intello froid ou austère ou théoricien. C'est ça aussi que ça met en lumière.
Oui, je pense que c'est un des aspects importants. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que met l'accent Richard Morgiev dans sa préface, qui justement veut, d'une certaine manière, rompre avec cette idée d'une sorte de froid théoricien. Et ce qu'on observe, c'est que, alors ça n'est qu'un exemple, mais qu'on voit Manchette à plusieurs reprises avec ses correspondants être dans une sorte de relation, de démarche, peut-être que c'est exagéré, affective, ou en tout cas très amicale, et notamment, par exemple, on le voit essayer d'aider, de prêter main forte à certaines personnes. Alors ça peut apparaître comme des détails, mais je pense pas que ça en est. C'est-à-dire que la correspondance commence, par exemple, avec toute une série de lettres à Pierre Signac. À plusieurs reprises, Manchette lui explique ou essaye de voir de quelle manière est-ce que Signac pourrait être introduit dans un certain monde qui serait celui de la bande dessinée, ou comment est-ce que ces textes pourraient être adaptés, etc., au cinéma. On le voit aussi répondre par exemple, à un auteur qu'on connaît guère ici, qui est Paul Buck, où il essaye de lui expliquer de quelle manière est-ce que ces textes pourraient, comment ils pourraient proposer un texte à la série noire, puisque Manchette était lui-même à la série noire. Et l'intérêt en plus pour le lecteur, c'est qu'au-delà de cette relation entre deux individus, du coup, Manchette explique qu'est-ce qui constitue un texte de la série noire, c'est-à-dire qu'il fait une sorte, il lui explique de manière pas du tout, de manière à la fois précise, théorique, intelligente, mais pas du tout pontifiante, puisque régulièrement il s'amuse même de ses théories, lui explique en quelque sorte la grammaire du roman noir, qu'est-ce qu'il faut dans la cuisine d'un bon polar, d'une certaine manière. Donc pour le lecteur, et même pour le lecteur qui n'est pas un fan de Manchette, qui ne connaît pas Manchette, etc., ça donne une somme d'idées, d'informations, etc., qui peuvent être assez palpitantes.
Et en même temps, ça donne un éclairage, donc en effet, donc sur ce sur qui est Jean-Patrick Manchette, parce qu'en effet, il n'est pas forcément... alors, c'est en effet, c'est un mythe, c'est une sorte d'icône de star. À côté de ça, Richard Morgiev dit justement dans la préface émouvante qu'il n'en était rien pour lui, quoi, à l'époque. Mais justement, quel statut il a en 1977, quand cette correspondance commence, puisqu'il est en plein milieu de sa décennie. Il a publié 6 romans, je crois, à La Série Noire. En 77, il vient de publier Le Petit Bleu de la Côte Ouest, en janvier. Ouais. Qui est fatal, qui sera refusé par La Série Noire et qui sera publié. C'est là que ça commence aussi la correspondance, publiée hors série avec la couverture de
Tardy.
Par Tardy. Et en mai, il va commencer La Position de tireur couché, donc il est en pleine production romanesque. Mais qui est Jean-Patrick Manchette en 1977? Qui il est sur la scène du littéraire française?
Alors, je vais essayer de répondre, ça sera peut-être un peu long. Faut me dire si c'est drôle, parce qu'il y a peut-être pour ceux qui ne connaissent pas,
oui, nécessairement, voilà,
un certain nombre de choses à expliquer. Donc voilà, les romans de Manchette a commencé de publier des romans à La Série Noire en 1971, et on peut dire que ce sont des romans qui ont fait grand bruit, qui ont apporté une sorte de renouvellement très net de l'écriture du roman noir. Bon, et donc d'une certaine manière, son audience, sa notoriété, sa stature n'a cessé de grossir. À cela, il faut ajouter que, en plus d'être romancier, Manchette écrit des critiques. Voilà, on en reparlera peut-être, puisqu'il y en a certaines qui sont republiées. Donc, notamment à la fin de la décennie 70, il va écrire des critiques qui sont des critiques de polar, sur le polar, des critiques sur le cinéma, des critiques sur le jeu, dans des journaux comme Charlie, comme Harakiri. Voilà, des choses œuvre protéiforme. Donc tout ça fait que, effectivement, d'une certaine manière, si on regarde les choses avec le recul, il apparaît quasi incontournable. Il est d'une certaine manière aussi en haut de l'affiche, puisque il travaille pour le cinéma. Ses textes sont adaptés dans des films, sont achetés par Delon, etc. Voilà. Donc on peut dire que véritablement, il est, pour employer une expression un peu convenue, en haut de l'affiche. Et en plus, on y reviendra peut-être aussi, il est traducteur. Bon, voilà. Donc, une œuvre tout à fait protéiforme, une place qui est centrale, qui semble-t-il, devient la première place du polar français. Mais ce qui me paraît intéressant et que la correspondance permet de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus paradoxal. C'est qu'à la fois, il est au centre, d'une certaine manière, et on le voit dans la correspondance, on ne cesse de lui demander des signatures, des participations, etc. C'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière très, très demandé. Et en même temps, et ça commence dès la première lettre qu'il envoie à Claude Gallimard, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il n'arrive plus à s'annexer, ou il n'a plus envie de s'annexer à quelque groupe que ce soit. Puisque, pour expliquer les choses, tu y as fait allusion, cette première lettre, c'est la lettre dans laquelle Manchette évoque le refus par le comité de lecture de La Série Noire d'un roman, Fatal. Les avis du comité de La Série Noire sont extrêmement tranchés, hein, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est épouvantable, que c'est un truc qui a été torché en 2 semaines, etc., qui est illisible. Bon, voilà. Manchette ne s'en scandalise pas, mais justement écrit à Claude Gallimard en lui disant « J'ai trop de respect pour les gens de La Série Noire, etc., je veux pas faire le forcing, donc je serai publié ailleurs. » Bon, voilà. Donc, ça veut dire que vis-à-vis un petit peu du roman noir, et puis après du milieu polar, Manchette va se retrouver d'une certaine manière un petit peu ailleurs. Bon. Et puis, par ailleurs, et ça, on l'observe durant toute la correspondance, et puis, par rapport aussi à un certain monde politique dont il était, enfin, d'une mouvance, qui est la mouvance des années 1970, qui est la mouvance de gauche ou d'ultra-gauche, etc., il va acquérir une place très, très singulière et assez critique, qui fait que là aussi, d'une certaine manière, il va fonctionner, j'allais dire, en solo, en fait. Voilà. Donc, pour répondre de manière... Ma réponse était un peu interminable.
Non, mais c'est...
à ta question, à la fois, il est au centre, je dirais, et il est de plus en plus ailleurs, et un petit peu comme un roman, c'est un peu une des histoires, après ça dépend de chaque lecteur, c'est une de ces histoires que raconte la correspondance de Manchette.
et justement le rapport avec le cinéma, puisqu'à la base, on apprend aussi grâce à cette correspondance que Manchette a voulu d'abord écrire pour le cinéma avant de prendre goût à l'écriture romanesque. Et justement, il fait un parallèle avec le cinéma de divertissement, le cinéma de distraction, les films américains qu'il aime, plutôt que l'avant-garde française. Il n'est pas du tout Godard ou il n'est pas du tout dans cette mouvance-là, au contraire. Et justement, ça montre aussi son statut et sa volonté d'être aussi un écrivain qui soit le plus lu, mais en même temps qui voudrait ou il voudrait être à part aussi.
Je veux dire par rapport à son rapport au cinéma.
C'est un peu la même chose entre le cinéma et la littérature pour lui.
Alors c'est possible. Alors c'est vrai que effectivement lui-même le dit au départ finalement. Alors peut-être qu'il exagère un peu, mais il a une manière de présenter les choses comme si, d'une certaine manière, sa carrière littéraire était arrivée quasiment par accident. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que sa grande passion première, c'était une passion pour le cinéma, et que son idée, c'était d'écrire des scénarios, de faire que ces scénarios soient adaptés, etc. Ce qui sera, d'une certaine manière, toujours le cas, mais c'est sans doute pas là qu'il trouvera son accomplissement, sa plénitude, etc. Et donc, il aura de plus en plus une vision désabusée des choses. Disons que le cinéma, ou le fait que les droits de ses romans seront achetés, lui permettra de vivre correctement, si tu veux. Et donc, du coup, je sais plus où on en était sur question du cinéma.
On disait qu'en fait, s'il y avait une sorte de parallèle avec l'écriture de première classe et l'écriture de seconde classe ou de distraction.
Ouais. C'est-à-dire si c'est effectivement ce que je comprends. Oui. C'est-à-dire que il y a toujours eu chez Manchette le goût pour des formes populaires. Pour des formes populaires, je crois pas dans une sorte de dandisme qui serait de prendre le contre-pied nécessairement de la culture officielle, etc. Mais il y a toujours eu l'idée de pouvoir s'adresser au plus grand monde, d'une certaine manière, de s'adresser notamment à un public populaire. Et c'est quelque chose qui revient d'une certaine manière dans la correspondance, puisque c'est une des explications de la crise des années 1980-1988 jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle voie. Comment faire pour écrire autre chose, c'est l'idée que d'une certaine manière le polar change de public. Va y avoir un nouveau public et que d'une certaine manière va y avoir une certaine forme de d'embourgeoisement de ce public du polar, alors que justement il avait voulu choisir une forme qui était jugée comme une forme vulgaire. Et c'est justement pour ça qu'il l'apprenait, pour pouvoir s'adresser à ce public-là.
Et c'est justement sa position totalement singulière de ne pas être dans cette littérature de consommation, enfin dans cette mouvance qui voudrait où il participe à des festivals, où il est appelé, où il refuse vraiment, alors aussi son agoraphobie qui est aussi perceptible, mais en même temps ça montre tout le paradoxe. Cette correspondance révèle tous les paradoxes chez Manchette, chez cet écrivain-là, quoi. C'est ça qui est extrêmement important entre les dialectiques, comme il l'appelle, inspiration.
Oui. Alors, à la fois, on peut parler de paradoxe, mais je crois qu'il y a aussi quelque part, enfin, sans vouloir absolument défendre Manchette, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez cohérent. Alors, c'est quelque chose dont on a parlé. C'est toutes les critiques qui sont sorties sur le journal, et c'est très bien. Et on revient très souvent sur cette idée d'une sorte de désabusement de Manchette par rapport à la récupération du polar et sur le fait que le polar soit devenu une sorte de marchandise culturelle. Mais je crois que ce qu'il faut préciser, que Manchette lui-même précise à plusieurs reprises dans son journal, c'est ça qui va refuser nombre d'invitations, nombre de participations à des choses, etc. C'est que dans l'expression marchandise culturelle, d'une certaine manière, ce qui le gêne, c'est pas marchandise, c'est culturel. C'est-à-dire que à partir du moment où, dans son idée, on est dans un monde ou dans une société où tout est marchandise, il a justement choisi d'œuvrer dans une marchandise, j'allais dire explicite, évidente, patente, qui était celle du polar, c'est-à-dire quelque chose qui était mal considéré, mais qui, du coup, pouvait s'adresser au plus grand nombre. C'est-à-dire que si le lecteur jugeait lisait un polar, c'était véritablement par goût, puisque, d'une certaine manière, c'était pas quelque chose qu'on pouvait arborer dans la conversation ou dans sa bibliothèque. Et puis, ce qu'il voit, c'est que progressivement, les choses vont changer. Je sais pas, je peux lire un passage par rapport à... Alors, je lis très mal et je m'en excuse dès le
mais c'est intéressant d'avoir la voix de Manchette aussi.
Oui, voilà, mal lu. Et donc, ça, c'est une lettre, pour un peu contextualiser les choses, c'est une lettre qu'il envoie à un correspondant, un écrivain d'Amérique du Sud, et qui lui pose des questions sur diverses choses, dont le centre Georges Pompidou. Alors, c'est le point de départ, et on va voir que Manchette part du centre Georges Pompidou pour arriver progressivement jusqu'au polar. Quant au centre Georges Pompidou, je crains qu'il ne soit terriblement représentatif du côté commercial et même religieux de la culture de nos jours. Bien entendu, il y a des œuvres d'art à l'intérieur. Mais selon une conception de base de la relation entre l'art et le peuple, qui transforme ce genre d'endroit en une sorte d'église avec ses reliques et ses processions, et qui voit défiler une plèbe superstitieuse et ébahie. Quand j'ai décidé d'écrire des romans criminels, plutôt qu'autre chose, voici plus de 25 ans, l'une de mes principales motivations était que cette littérature n'était pas respectable. À l'inverse, elle était considérée comme pauvre et vulgaire. Je pouvais ainsi entretenir l'espoir de communiquer vraiment avec les lecteurs. Tout est lié. Lorsqu'aujourd'hui, j'ai tendance à éviter les festivals et les organisations, c'est parce que je n'ai jamais aspiré à une reconnaissance culturelle. Au contraire, la reconnaissance culturelle du néo-polar, qu'on l'appelle ainsi ou non, est une défaite. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez important et qui permet aussi d'avoir un autre éclairage sur l'œuvre de Manchette. Je sais pas, pour en prendre juste un exemple, puisqu'on parlait du fait qu'il a arrêté d'écrire des romans, dans son dernier roman publié, qui était De son vivant, qui était La position du tireur couché, il y a un personnage qui est quasiment le personnage le plus épouvantable du roman, qui est un chef d'entreprise et qui, dans une conversation avec le héros de La position, qui est Martin Terrier, lui envoie à la figure un certain nombre de sujets culturels. Qu'est-ce que vous pensez de ceci et de cela, etc. Et parmi ces sujets culturels qui sont uniquement là pour l'écraser, il lui dit qu'est-ce que vous pensez du nouveau polar, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est cohérent et qui est une vraie souffrance pour Manchette, c'est que l'idée que ce dont il s'était saisi comme pouvant être d'une certaine manière une arme pour les pauvres devient d'une certaine manière une arme pour les riches. Je dis les choses de manière un peu sommaire, mais je pense que c'est... Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui revient, par exemple, dans la correspondance à plusieurs reprises et qui aboutit à ce qu'on appelle parfois maintenant l'intransigeance de Manchette, mais qui est aussi une sorte de... quelque chose, une forme de conséquence ou d'adéquation entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. À un moment donné, par exemple, il est contacté par une association qui est l'Association internationale des écrivains de littérature, d'Amérique du Sud, de littérature policière. Et cette association, donc, veut faire de lui une sorte de représentant un petit peu français. Voilà, ils veulent essaimer un peu dans différents pays. On voit que Manchette s'en méfie un petit peu, peut-être il se méfie d'une forme de centralisme bureaucratique avec des émissaires à gauche, à droite. Voilà, il y a son anarchisme qui ressort. Néanmoins, il transmet au départ les informations par courtoisie qu'on lui demande de transmettre. Et puis il dit, bon voilà, c'est vrai que l'organisation de festivals, de choses comme ça, etc., peut avoir son avantage pour les écrivains, comme plein de choses, des avantages tels que des voyages gratuits. Et je crois que la formule, c'est toute autre chose ou des choses qu'ils ne craindront pas de mériter. Voilà. Et donc on voit, il y a quelque chose, et là c'est l'écriture de Manchette qui est magnifique de perfidie par rapport à une sorte de petit monde qui se met en place et dont a priori il ne veut pas être.
Oui, tout à fait. Et c'est en même temps un formidable témoin de ça, de ce qui est en train d'advenir aussi du roman policier, du roman tout court dans ces années-là. Et en même temps, il y a une forme de... une très, très grande beauté de l'écriture. C'est une correspondance qui se lit véritablement comme une œuvre à part entière. Ça, c'est, il a porté un soin à son interlocuteur, même s'il était, il avait des difficultés, en effet, à être quelquefois être en relation avec, mais en même temps, une grande proximité, une grande générosité. C'est un écrivain qui prenait soin vraiment de l'écriture en tant que telle. Pour lui, la correspondance n'est pas une œuvre mineure, n'est pas une activité mineure du moins.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, là encore une fois, tout se tient par rapport à ce que tu dis, qui est très juste. C'est d'une part, comme tu le dis, une attention à son interlocuteur, puisque il s'agit de véritablement communiquer. Et il le dit, et il reprend la jolie formule qu'emploie l'un de ses correspondants. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité contenue, et dans cette correspondance, Manchette communique véritablement, et par rapport à le passage que je lisais, il trouve finalement dans ses interlocuteurs, qui peuvent être des lecteurs comme toi et moi, des gens inconnus, il trouve justement matière à discussion, et une discussion qui est véritablement une discussion, et c'est assez beau à observer, qui est une discussion d'égal à égal, où vraiment il précise des choses, il cherche des choses, etc. Voilà toutes ces choses. Et en plus de ça, comme tu le disais aussi, et comme son fils Doug Edline le dit, il bloquait des moments, des journées, etc., pour faire sa correspondance. C'est-à-dire qu'on le voit quand on lit, quand on regarde les lettres tapées à la machine, il y a un énorme soin porté à cette écriture-là. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas des choses qui sont, comme on dit, cochonnées, mal écrites, etc. C'est un véritable exercice d'écriture, pas du tout dans le sens d'une écriture qui serait une écriture guindé, empesé, etc. C'est extrêmement souple. Il passe d'un truc à l'autre, d'un ton à l'autre, etc.
Il y a un ton de la conversation.
Presque. Voilà, un ton de la conversation, un ton qui, moi, parfois, me paraît presque un ton classique, un ton comme il y a des grandes correspondances classiques à la Madame de Sévigné. Alors l'analogie est un peu bizarre parce qu'il est beaucoup plus sympathique que Madame de Sévigné, mais effectivement, il y a quelque chose de le fait aussi de ne pas considérer qu'une forme d'écriture soit inférieur à une autre forme d'écriture. L'idée, c'est toujours de parler, ce qu'il voulait faire au départ avec les romans, de communiquer à quelqu'un, d'échanger des choses, etc. Voilà. Donc la correspondance devient, je pense, quelque chose d'absolument capital.
Et justement, par rapport à ces correspondants, alors il y a des correspondants, bien entendu, qui sont extrêmement, extrêmement importants dans ces correspondants. C'est justement le choix de parmi toutes ces lettres, tous ces correspondants qu'il a eu. Il y a des correspondants quand même de renom, quand même. Il y a des grandes lettres, alors des lettres qui ont été quelquefois dévoilées, et où quelquefois il y a des correspondances qui ne sont pas forcément connues, comme la lettre à Jacques Foll de 80 ou 81, qui est extrêmement aussi connue parce qu'il théorise aussi ce qu'il en est le dessèchement du polar, la dialectique transpiration, inspiration, mais en même temps, il y a une forme de chaleur, de générosité dans son adresse à l'autre, où il est extrêmement extrêmement précis, méticuleux dans sa réponse,
Tu disais oui. Alors pour tous ceux que ça intéresse, on trouve évidemment des écrivains qui sont des écrivains connus. Alors les écrivains au départ, il y a un peu des périodes effectivement, c'est-à-dire que la correspondance notamment commence avec une série de lettres à Pierre Signac, qui était un écrivain qui lui était contemporain, qui parfois est un peu oublié de nos jours, mais qui était un écrivain important, et que en plus on le voit pour lequel Manchette avait une énorme admiration, parce que c'est ça aussi, c'est que malgré tout, tout en ayant cette espèce d'exigence énorme littéraire, intellectuelle, politique, etc., il y a une forme d'humilité qui est une humilité très très présente et qui semble pas feinte dans la correspondance. Donc, par exemple, à Pierre Signac, il lui dit bien quelque chose comme moi, je suis qu'un bon artisan, enfin,
le bon représentant d'un petit milieu, d'un court moment.
Voilà, le représentant d'une sorte de tendance, du polar. Là où il lui dit, en gros, toi, tu resteras parce que tu es vraiment une singularité. Donc, parmi les Français, il y a Signac, il y a effectivement Echnoz qui l'aide à faire découvrir. Je reviens pas là-dessus parce que enfin
c'est assez connu. C'est
voilà.
Connu quand même.
Voilà le truc avec Echnoz, la relation est assez connue.
Et en même temps, ça lui permet aussi de lire ses contemporains, d'avoir une sorte de regard un peu autre par rapport à la littérature contemporaine qu'il n'aime.
Oui, voilà. C'est-à-dire ce qu'il reconnaît, ce qu'il dit à Echnoz, c'est que il a une sorte de surprise, c'est-à-dire que pour une fois, il s'est en quelque sorte amusé à lire un livre de littérature blanche, voilà. Même si c'est une littérature qui emprunte beaucoup aux romans policiers et à Manchette en particulier. Et puis, dans un second temps, on a l'impression, et c'est ça qui est intéressant, grâce notamment à toutes les traductions qui ont été faites, et là, vraiment, il y a une somme de lettres jamais lues, quoi, en fait, on a l'impression qu'il va chercher un petit peu ailleurs. Les écrivains, c'est-à-dire que alors on sait qu'il y a eu Elroy, il y a une lettre à Elroy, il y a Donald Westlake qui l'admire beaucoup et qui va traduire, il y a Ross Thomas qui va traduire et qu'il va aider à faire connaître en France et pour lequel on a l'impression qu'il y a une sorte de coup de cœur, d'admiration mutuelle entre les deux véritablement puisque au moment où dans les dernières années c'est vers la fin. Manchette, je crois que c'est la seule lettre où il annonce que Gallimard a l'idée de publier une sorte d'œuvre complète, comme il y en a ensuite après sa mort chez Quarto. Il demande à Ross Thomas de s'il veut bien en faire la préface. C'est intéressant parce que ça, il demande pas un français là encore. C'est sur le fait qu'il est ailleurs d'une certaine manière. Je pense qu'il est plus attiré, ce qui explique aussi. Le fait qu'il voudra faire une sorte de seconde carrière et arriver à un nouveau genre qui est plus exactement celui de la série noire avec la princesse du sang, on a l'impression qu'il va chercher ailleurs, enfin c'est ce qui l'intéresse, n'est plus vraiment ici.
Et c'est chercher une nouvelle forme aussi qui l'intéresse, et c'est pour ça qu'il met ce temps-là aussi. Alors il a des ennuis aussi personnels de santé, sa mère, enfin il a des ennuis personnels, enfin ses angoisses, son agoraphobie, son alcoolisme dont il parle pas mal, mais en même temps voilà il y a cette recherche d'une forme, et c'est presque Ross Thomas en effet qui va lui donner l'idée aussi d'entamer ce cycle. Et justement c'est intéressant par rapport au titre qui a été donné à cette correspondance, les lettres du mauvais temps. Est-ce que tu peux nous en dévoiler un peu le secret
de cette du titre voilà le titre c'est une sorte de démarcation du titre que Manchette voulait donner au cycle romanesque qu'il initiait, qui devait s'appeler « Les gens du mauvais temps ». « Gens du mauvais temps », dont le premier tome, qui est paru, mais qui est paru sous une forme inachevée, était la princesse du sang. Donc ça rejoint ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que l'être du mauvais temps ou gens du mauvais temps, on peut envisager « mauvais temps » de deux manières, c'est-à-dire que c'est à la fois, comme tu le dis, d'une certaine manière, une sorte de mauvais temps pour Manchette. D'abord, on parlait tout à l'heure de la somme des activités qu'il avait. Donc, il y a, je pense, au tournant des années, enfin au début des années 80, une forme de surmenage. Et puis, effectivement, il va y avoir la dépression, il va y avoir la maladie, etc.
Bon, les ennuis d'argent, donc, aussi,
voilà,
qui sont
voilà,
aussi,
enfin, voilà, le fait de devoir jongler avec un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est une sorte de mauvais temps personnel. Mais ça s'inscrit aussi dans une sorte de mauvais temps général, qui est la marge de l'histoire, puisque c'est là aussi où c'est intéressant. C'est-à-dire que Manchette faisait partie de ceux qui ont traversé les années 70, 68, etc., et qui ont cru et espéré un grand changement, et qui ont même espéré un changement de type révolutionnaire. Et dans cette correspondance, on le voit, d'une certaine manière, le désenchantement qui vient, puisque c'est les années 80, on ne peut pas dire que les années 80 aient amené un changement révolutionnaire global. C'est plutôt c'est ce que Manchette appelle la contre-révolution. Et on le voit extrêmement attentif, c'est-à-dire à la fois reclus, mais extrêmement attentif à ce qui se passe dans le monde. En fait, véritablement, là encore, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que c'est pas du tout un individu froid, touché par tout ce qui peut se passer, aussi bien la guerre en Irak que les premières manifestations dans les premières émeutes de banlieue, que une catastrophe industrielle en Inde, etc. Donc voilà pourquoi mauvais temps. Et par rapport à ça, par rapport au début de ta question ou de ta remarque, la rencontre avec Ross Thomas lui amène l'idée d'une autre formule qui serait une formule, comment dire, plus touffue narrativement. C'est-à-dire que jusqu'ici, en gros, les romans de manchette pouvaient être pouvaient tenir en une phrase, en fait, oui. Pouvaient être très très aisément résumables. Et puis là, on va avoir quelque chose qui semble mêler plusieurs intrigues, etc., qui a une plus grande forme de complexité géopolitique, voilà.
Et même Rostoma, lui, était aussi, il y avait ce côté-là. Ouais,
voilà. Donc, je pense que, effectivement, lui-même le dit, c'est un petit peu là où qu'il prend l'idée d'un nouveau départ, quoi, en fait.
Mais y compris ses traductions qu'il travaillait avec sa femme Mélissa, qui lui a aussi donné le goût de plein de romans noirs, enfin il y avait une grande complicité à ce niveau-là. Mais c'est aussi les traductions qui lui permettent de vivre, de bouffer, comme il dit, mais en même temps qui sont là et qui lui permettent aussi de, c'est aussi une forme de travail qui va le renvoyer à son travail romanesque.
Oui, je pense que les traductions, on s'en doutait un peu.
C'est du manchette.
C'est du manchette et on s'en doutait un peu, mais vraiment, c'est récurrent dans les lettres. C'est un truc qu'il passionne, qu'il adore, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les lettres aux traducteurs, c'est-à-dire à ceux qui traduisent ses œuvres, et c'est là où il explique un certain nombre d'éléments de ses œuvres. Il y a les lettres qu'il envoie aux auteurs qu'il traduit, comme Westlake ou Ross Thomas. Et donc là, c'est lui qui est dans la position de poser des questions sur le texte, etc. Et il le dit à un moment donné, c'est que je crois que c'est l'expression qu'il emploie, que c'est quelque chose en plus, les traductions qui lui reposent l'âme, parce que je crois que c'est quelque chose où du coup il s'agit plus de chercher des idées, de cogiter, de se remuer les méninges, etc., mais de se laisser porter par des questions d'ordre linguistique, stylistique, poétique, etc. Et on sent de plus en plus quand même qu'il y a une forme de montée, il le dit lui-même dans une lettre à Paul Buck, une sorte de sensibilité de plus en plus forte à la beauté littéraire. C'est quelque chose, cette sorte d'absolu littéraire qui devient quelque chose de très très important et donc absolu, que les traductions lui permettent un petit peu de rassasier, je sais pas si on rassasie un absolu, mais lui permettent un petit peu, voilà, d'être là de tremper dans ces questions de langue sur lesquelles il a des développements qui sont vraiment passionnants et qui peuvent être drôles aussi dans la correspondance.
Oui, parce qu'il y a une forme de, en même temps, d'analyse et d'auto-analyse de ses œuvres qui est extrêmement pointue et précise pour tous les il a tout compris et tout saisi de ce qu'il faisait, donc et en même temps c'est précieux pour le lecteur même maintenant, mais en même temps il y a une forme de lucidité aussi par rapport à ses propres tourments et par rapport à l'époque dans laquelle il est plongé, donc il y a une forme tout le temps d'ironie et de quelque chose de toujours au clair avec ça.
Ouais, je crois qu'alors effectivement c'est un des, alors comme la correspondance est tellement riche et complexe, etc., on a toujours peur de trop insister sur une chose, etc. Donc si j'essaye de dire des choses sur manchette, penseur ou ceci, on peut avoir l'impression qu'en gros que ça pontifie énormément, etc. Bon, et en fait il y a toujours, comme tu le dis, un aspect, enfin une forme d'autodérision qui fait qu'il est tout à fait capable de faire un long développement qui peut être théorique, il y a certaines lettres qui peuvent être un peu plus ardues que d'autres, etc., mais d'avoir tout à coup une sorte de longue parenthèse, ou petite parenthèse, ou un clin d'œil, où il dit un truc du genre, bon, je vous reverrai la semaine prochaine pour tel cours, sur telle chose, etc. Donc il y a toujours une forme de recul qui fait qu'effectivement, il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'emphase, il y a toujours quelque chose qui désamorce. C'est c'est le même manchette qu'on retrouve dans la réédition des chroniques de jeu. C'est-à-dire c'est un manchette aussi qui est un manchette qui peut être parfaitement potache, qui peut s'amuser, etc. C'est-à-dire que ce qui fait que c'est une sorte d'art classique dans cette correspondance, c'est que l'écriture est vraiment souple. Donc dans la même page, on peut passer d'un développement théorique à une espèce de d'ânerie volontaire, et puis un passage assez vachard, etc. Voilà. Donc il y a une sorte
de liberté de ton.
Voilà, de fluidité, et puis de maîtrise de l'instrument qui fait qu'en gros, on a l'impression qu'il peut un peu aller où il veut du point de vue de l'écriture.
Oui, les chroniques dont tu parlais, le play de Eugène Dupont, qui est aussi redité à la table ronde, ces chroniques ludiques qui n'avaient jamais été rassemblées, qu'il avait écrites entre 78 et 80, donc là, de façon beaucoup plus ramassée pour le magazine Métal Hurlant. Et en effet, ça donne une facette là totalement libre et sans contrainte, là, pour le coup, de Manchette, et qui fait référence aussi à ces chroniques autres sur le cinéma, ces chroniques sur le polar, qui sont elles, qui ont été publiées déjà avant et qui sont extrêmement connus et riches aussi pour tout amateur de romans noirs ou tout amateur de Manchette et même de ce qu'on appelait le néopolar. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient régulièrement sur cet étendard-là qu'on a voulu lui accoler parce que lui-même a forgé ce mot-là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il en dit de cette position-là, de sa position particulière
Sur le néopolar.
Sur les néopolars, oui.
Bah, effectivement, c'est lui qui a parlé de néopolar, mais néopolar, l'idée, c'était une il y avait une forme de dérision dans l'expression, c'est-à-dire néo, c'était au sens d'un ersatz, quoi, en fait. Donc, avec la conscience que ce sur quoi il travaillait, c'était une forme dégradée. Mmh. Donc, il l'a pas jamais du tout employé comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'éloge ou d'une sorte de manifeste. Donc, première chose, il s'est amusé de voir les journalistes dont il se moquait beaucoup et aussi d'une certaine forme de d'inculture, alors l'employer au premier degré, cette expression, voilà, comme si c'était ça, une expression valorisante. Et puis, deuxième problème, c'est qu'à partir du moment où il y avait un groupe, une sorte de tendance de cohorte qui était ainsi créée, etc., il le dit dans une lettre assez drôle, il s'effraie de voir qu'il y a une ribambelle d'auteurs français, là, pour le coup, dont ils considèrent qu'ils écrivent tous les uns plus mal les uns que les autres, etc., et qui, en gros, sont présentés comme des suiveurs, ou voilà, donc, de Manchette. Donc, d'une certaine manière, il dit s'effrayer d'avoir ouvert la porte, ouvert la porte à ça. Et c'est vraisemblablement pour ça aussi qu'il veut, lui, partir ailleurs, en fait, pour se distinguer de ça, clairement, même s'il l'a dit aussi clairement.
Et pour revenir un peu sur l'édition de ces lettres, de cette correspondance, c'est donc, tu l'as dit à un moment, c'est le fils donc de Jean-Patrick Manchette, Dougued Line, Tristan, qui a donné l'accès, j'y présume, à ces lettres, à cet ensemble de lettres. Quel a été le parti pris? Parce que donc, tu as permis donc, l'annotation, la présentation, les notes qui sont extrêmement, extrêmement claires pour le lecteur d'aujourd'hui aussi. Quel a été ton travail et quel a été votre travail, parce que c'est un travail collectif, je crois, puisque Jeanne Guyon et François Guérif, qui sont aussi des grands éditeurs qui ont chez Rivage notamment, et qui avaient déjà participé au colloque que tu avais initié à la librairie Moula en 2015. Donc quel a été votre travail collectif par rapport au corpus de lettres que Dougued Line vous a apporté?
Alors oui, c'est vraiment, et même pour le colloque qui était juste, c'est juste un détail, on était deux, c'était Nicolas Lefaïc et moi qui l'organisions. Et là, c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire qu'on quatre personnes, Doug, Jeanne Guyon, Nicolas, voilà, et moi-même. Et donc on a tous travailler un petit peu, voilà, l'écrit, revu les notes, etc., retoucher les notes. Le parti pris, il était simple. C'était, je crois, tout simplement d'aider à la lecture, c'est-à-dire de pas faire une édition savante. L'idée, elle n'est pas de faire un assaut de d'érudition et de surcharger le volume, mais c'était de donner quelques éléments, quelques indications qui permettent de, voilà, d'aider la lecture. Donc ici, une allusion historique qui sera éclairée. Là, le fait d'indiquer quel est ce correspondant qui n'est pas connu. Ailleurs, le fait de donner un tout petit extrait de la réponse d'un des correspondants pour qu'on prenne mieux l'échange. Voilà, des choses comme ça. Ou encore, ce qui peut être intéressant, de citer par rapport à un moment d'une des lettres, un autre texte de Manchette, par exemple un texte pris dans les chroniques ou dans les yeux de la momie, parce qu'il y a des échos très nets. C'est pour ça que ça fait œuvre d'une certaine manière, pas redite, mais plutôt des variations, des échos, des prolongements d'un point à un autre. Et on se rend compte de l'extrême cohérence de l'ensemble, puisqu'on voit qu'il y a des points sur lesquels Manchette revient, telle critique de films, de livres, etc. Et même c'est ce qui donne aussi le caractère assez passionnant de la correspondance, c'est que on a l'impression aussi que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, comme Manchette prêtait énormément d'attention à cette correspondance, que parfois il trouve une tournure de phrase ou une idée qu'il va réutiliser ailleurs d'une certaine manière. On a vu ça des fois, on s'en est rendu compte à plusieurs reprises par rapport aux chroniques.
Et justement, ça fait pas redite, mais en même temps, ça fait écho par rapport à des thématiques, à des leitmotifs de son œuvre. Mais justement, personnellement, quelle est la, comme tu as découvert un bon nombre de lettres à cette occasion-là, même si tu connais l'œuvre de Manchette depuis un bon nombre d'années, quelle est la découverte que t'as permis ce dévoilement?
C'est là, oui. Qu'est-ce que ça à moi personnellement?
Oui, personnellement.
Parce que c'est compliqué de distinguer. Je pense vraiment, je vais répondre très très simplement et de manière primaire. Je pense que des fois, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. On est admiratif d'un auteur, voilà, pour diverses raisons, etc. Un romancier, les histoires qu'il raconte, etc. Bon, voilà. Et puis on lit des choses plus personnelles, on lit d'un journal intime ou on lit une correspondance. Et puis il y a un truc qui fait que ça s'écroule un peu. Enfin, ça s'écroule pas complètement. Les œuvres, elles restent, mais on se dit que derrière ces œuvres-là, il y a soit des contradictions. Enfin, en gros, l'idée c'est qu'on est déçu par l'individu. Et dans une perspective un petit peu humaine ou une perspective de fan, etc., je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau à là-dedans, dans le fait de pas être déçu, justement, et d'avoir quelqu'un qui... Et là encore, il s'agit pas de sanctifier Manchette ou de... Voilà, parce qu'en plus, les critiques, parfois, c'est un peu inutile de les faire, puisque les autocritiques, il les fait lui-même. Donc, voilà, c'est pas la peine de traquer des choses qui distinguent très bien. Et en fait, je trouve que ce qui est assez exemplaire, c'est de voir quelqu'un qui lutte pendant des années pour mettre en adéquation ce qu'il pense avec ce qu'il vit, et donc c'est difficile, et donc il, d'une certaine manière, il souffre, ou il galère parfois, etc., mais au moins, il y a une forme de cohérence, et en gros, et aussi, pour dire là aussi les choses très très simplement, il est rare de trouver, on va présenter les choses autrement, c'est agréable de trouver ça, cette cohérence-là, sur ce qu'on pourrait appeler une grande figure de gauche, un grand écrivain de gauche qu'il est, qui continue d'être, etc., mais qui, pour sa part, lui, est assez conséquent dans ce qu'il fait par rapport à certains principes, etc. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui à la fois, qui comble et qui, puisque malheureusement, il est disparu presque jour pour jour, il y a 25 ans, qui émeut, parce qu'effectivement, on voit la maladie arriver progressivement, etc., la manière dont il la minore parfois dans les lettres. Et donc voilà, c'était cet aspect-là qui me semble aujourd'hui assez rare et assez agréable de retrouver ce type de figure-là dont on manque un peu.
Et tu n'avais pas eu ce sentiment-là quand tu avais lu le journal ou quand...
Si. On a ce sentiment-là quand on a le... Justement, oui. On l'a déjà un petit peu quand on a le... Quand on lit le journal. Mais 2005, alors, le journal, c'est un peu plus tôt. C'est les années 1966, je crois, 1974. Oui. Donc, le journal décrit plutôt l'avènement d'un écrivain. Voilà, l'arrivée du succès, etc. Donc, il y a quelque chose qui est apporteur d'une plus grande jeunesse. Donc, il n'y a pas les mêmes difficultés qu'il y a là, qu'on voit là. Et puis, il y a un homme beaucoup plus jeune. Donc, il n'y a pas forcément la même maturité qui apparaît, qui donne une forme d'émotion par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut lire un autre...
Oui, on va lire un autre. Mais justement, ce que je voulais dire aussi, c'était peut-être que ce tome de la correspondance, puisqu'on parle d'un second tome du journal, enfin la suite du journal Manchette, de toute façon, cette correspondance comble là aussi l'attente de cette deuxième partie de sa vie, et cette partie qui est aussi centrale aussi chez lui, quoi, puisqu'on on voit aussi en même temps avec émotion, en effet, l'homme qui se sait malade, mais en même temps, on voit toujours cet homme de combat, de lutte, et de lutte pour, pour vivre et pour vivre de son œuvre dignement presque. Oui, je veux bien en effet qu'on lise le passage parce que justement c'est le manchette là pour le coup étonnant, mais en même temps pas tant que ça puisque c'est un questionnaire auquel il répond à la toute fin de sa vie. La correspondance s'arrête en février 1995. Il va décéder donc en juin, le 3 ou 4 juin 1995. Et il prend quand même le temps de répondre. Alors, ses lettres souvent sont longues, mais là, il prend le temps de répondre de façon extrêmement émouvante, pour le coup, puisqu'on le lit a posteriori, à une classe, à une enseignante et à des élèves d'un lycée de terminale.
Oui, voilà. Alors, c'est une lettre qu'on a mis à la toute fin, même si ce n'est pas la dernière dont on dispose, mais elle précède de quelques mois la mort de Manchette, mais on l'a mise à la toute fin, comme une sorte d'épilogue, parce que c'est la dernière, elle a un statut un peu particulier, puisque c'est la dernière fois où, à la fois, Manchette se repenche sur sa carrière passée, sur ce qu'il a voulu faire du point de vue de l'écriture, etc., et puis aussi parle de la littérature en général, et répond, comme tu le dis, à un questionnaire qui lui a été envoyé par une classe d'un lycée professionnel. Il prend beaucoup de temps, on le voit, pour répondre à ça. Je vais juste lire la fin de la lettre, et je trouve que c'est vraiment un remarquable exemple de cette écriture, d'une forme d'humilité, on va le voir aussi d'une forme d'humour aussi, et puis forcément quelque chose de très très émouvant, puisque ça fonctionne un peu d'une certaine manière comme les derniers mots. Alors comme la lettre est très belle, je lis très mal, je m'excuse par avance, et je mets des lunettes, ce qui fait un peu émission littéraire. Tous les grands écrits, et il faut peut-être avant, emporter par, pour qu'on comprenne quelque chose, pour contextualiser un peu, donc il y a plusieurs questions, et que je lise la question qui a été posée, une des questions qui a été posée par ces jeunes lycéens. Racontez-nous pourquoi vous aimez lire et écrire, trouvez les mots pour nous donner l'envie de lire, que ni nos parents, ni nos éducateurs, ni nos professeurs n'ont su nous donner. Alors je vais lire une partie, je coupe, c'est un peu long, de la réponse de Manchette. Tous les grands écrits, et quelques-uns des petits, ont été faits pour que reste dans la mémoire des hommes le récit des événements qui se succèdent dans l'histoire. Jusqu'à l'invention du cinéma, il n'y avait rien d'autre pour conserver l'expérience du passé. Sans l'écrit, nous ignorerions tout, hormis quelques vagues légendes sur l'Antiquité grecque et romaine, la Renaissance italienne, l'indépendance américaine ou la Révolution française. La guerre de 14 et la Révolution russe seraient le sujet de conversations de 3 ou 4 centenaires. Ce ne sont que quelques très minimes exemples. Notez qu'ils n'intéressent pas seulement les livres d'histoire. Sans Shakespeare et le théâtre élisabétain, les passions de la fin du XVIe siècle nous seraient inconnues. Nous ne saurions pas que ce sont des passions qui nous étreignent le cœur. Nous n'aurions comme point de référence qu'Hélène et les garçons. Mais je ne veux pas énumérer des auteurs. Le fait brut est qu'un peuple sans écriture, un homme sans lecture, sont sans mémoire et plongés dans une ignorance qui a des conséquences pratiques immédiates. On se laisse berner, on croit n'importe quoi. Parfois, on en vient à ne plus croire à rien, mais ce n'est pas un grand progrès. Je crains de mal vous répondre avec de grands principes tonitruants. La lecture agréable n'est pas nécessairement grandiose et sérieuse. Dans mes premières lectures, il y avait de méchants romans de science-fiction où j'étais ravi de trouver de belles extraterrestres en maillot de bain. Ne négligeons pas les jolies filles. Quelques années plus tard, voulant plaire à une jolie marxiste, je lus tout Marx. Je n'y ai rien compris. Mais lire pour briller auprès d'une fille, c'est un commencement. Je n'ai pas trouvé votre lettre longue. Mes réponses le sont peut-être. J'ai fait de mon mieux. Je vous salue.
Voilà, donc c'est une sorte de bilan et en même temps de salut à la nouvelle génération aussi, quoi, puisque ce sont des élèves, des adolescents en fait, donc de terminale, et en même temps une sorte de rôle aussi dans ces lettres et dans cette lettre aussi, je trouve, où il donne la main aussi, où il nous donne la main pour lire plein de choses. C'est fait qu'on a envie de lire les auteurs qu'il cite ou qu'on connaît pas, ou peu en effet, Paul Buck, ou même des auteurs qui sont encore bien vivants, Didier Deninx, Serge Quadrupani, voilà toute cette génération là, relire Elroy avec le regard de Manchette. Mais en même temps, en effet, il y a une sorte de au-delà de ces grandes figures, en même temps, il y a une forme d'accès à tout le monde, en fait.
Oui. Je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui est... Alors, le terme, il est galvaudé, quoi, en fait, mais qu'il y a quelque chose de, dans sa pensée, dans sa manière de faire et d'être, etc., d'extrêmement démocratique. Et là, on le voit, effectivement, dans la manière de s'adresser à ces jeunes individus, dans la manière de montrer l'importance sans emphase de la littérature et à quel point la littérature permet de comprendre le monde, mais à quel point aussi des histoires avec des extraterrestres, des jeunes filles en maillot de bain, c'est chouette aussi, etc. Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là, il y a tous ces aspects-là qui se mêlent et qui font que qui peut certes aider à penser. Mais qui ne se présente jamais comme une sorte de maître à penser, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais, même si il peut impressionner, parce qu'il a de quoi impressionner à la fois par sa manière d'écrire, par son érudition, etc. C'est toujours, on en revient toujours à cette idée, il s'agit de communiquer dans un entretien qu'il avait fait à propos de l'adaptation d'un texte de théâtre. Il a une jolie formule. Il dit, mais il le dit au passé, mais en ayant une sorte de regard rétrospectif, il dit je voulais communiquer, pas impressionner. Bon, il se trouve qu'il a impressionné, mais je crois que l'idée, c'est là encore qui se distingue d'autres, c'était véritablement de communiquer et de communiquer avec tous et notamment avec ceux qui venaient pas, qui se présentaient pas au nom d'une institution ou d'une pas des notables quoi, en fait d'une certaine manière.
Il voulait en même temps être un écrivain singulier, parler pour lui et non pas pour au nom de la France ou du polar français qu'il représentait ou qu'on voulait lui faire
incarner. Oui, tout à fait.
Donc, rappelons donc la correspondance et lettres du mauvais temps qui viennent de paraître aux éditions La Table Ronde, qui sont une somme importante, mais en même temps, on n'a pas parlé de l'humour. Enfin, on en a parlé de l'humour, mais en même temps, c'est vrai que c'est extrêmement.
Faut le lire, quoi. En fait,
il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire dans cette de savoureux, de délectable dans l'adresse à Signac, dans les lettres même sèches qu'il fait au journaliste du Monde qui est un journaliste qui aime que le grand cinéma d'auteurs français ou même quand il est plus sec et intransigeant en effet avec les traductrices espagnoles de son roman. Donc voilà, il faut le lire pour le ton et en même temps c'est une œuvre à part entière en effet dans l'œuvre de Manchette qui vient d'être publiée et que beaucoup attendaient et ça toute cette correspondance se comble l'attente du lecteur qu'il soit lecteur de polar ou du lecteur de et lecteur de littérature en aussi quoi. Rappelons aussi donc le Play It Again Dupont qui vient d'être réédité aussi par l'édition de La Table Ronde et je crois parce que quand on lit au départ ils veulent l'édition de La Table Ronde veulent aussi publier bientôt peut-être les entretiens de Manchette qu'il a fait entre 73 et 93.
Oui, je crois que c'est prévu.
C'est quelque chose d'une publication prévue tout en et ses 25 ans aussi de la disparition de Manchette, on va voir aussi republier l'affaire Anne Goustreau et avec la préface de Nicolas Le Flaec et la position tireur couché il me semble aussi qui va paraître en juillet.
Et il faut peut-être pas oublier le qui reparaît dans une jolie édition chez Womba,
voilà.
Les yeux de la momie.
Une nouvelle édition du Womba, voilà. Les yeux de la momie qui sont les chroniques du cinéma, puisqu'en effet, le cinéma, là aussi, c'est assez drôle, puisqu'il ne voyait pas vraiment les films, on se rend compte. C'était son fils qui lui racontait tous les films, et en même temps, c'est lui qui faisait les chroniques. Donc, d'où le titre aussi, Les yeux de la momie. Merci Gilles Magnon d'avoir partagé cette correspondance, un bout de cette correspondance avec nous, d'avoir lu Manchette. Et donc, j'invite tout le monde à lire cette correspondance qui est vraiment indispensable.
Merci de même.
Merci.